Vous écoutez Prof tout court, un balado pour le bulletin Perspective SSF du service de soutien à la formation. Je suis Jean-Sébastien Dubé, coordonnateur de la veille, votre animateur. Bienvenue au balado Prof tout court. On est en entrevue aujourd'hui avec la professeure Marie-Flavie Auclair-Fortier, qui est professeure au département d'informatique de la Faculté des sciences depuis 2004. Détentrice d'un doctorat en co-tutelle entre Sherbrooke et l'Université Paris 13 en réseau et technologie de l'information, prix de la meilleure thèse en co-tutelle en 2005, directrice adjointe au département d'informatique. Ses domaines d'expertise sont le traitement et l'analyse des images, la vision par ordinateur ainsi que la vision panoramique. Marie-Flavie, bonjour.
Bonjour.
Pour débuter notre entretien, j'aime demander à mes interlocuteurs ce qui a le plus changé dans leur façon d'enseigner entre le début de leur carrière puis leur enseignement actuel.
C'est drôle que vous me demandiez ça parce que, pour faire référence un peu au texte que j'ai écrit, je parlais à la fin de cohérence pédagogique, puis en réfléchissant un peu à la question, je me disais, d'après moi, c'est l'aspect qui a le plus changé. Puis, de façon un peu inconsciente, ça a commencé quand même assez tôt. Même si j'avais pas suivi de formation au SSF ou quoi que ce soit, c'était... c'est parce que je me suis retrouvée à préparer, en fait, à monter un nouveau cours qui se donnait pour la première fois dans le cadre d'une nouvelle formation en informatique qu'on offrait. Puis c'était un cours, en fait, qui était quand même relativement spécialisé par rapport à ce qui se donnait en informatique traditionnellement. Donc, c'était dans mon domaine d'expertise, là, la vision par ordinateur. Puis il n'y avait rien que je trouvais comme documentation qui visait les étudiants au baccalauréat. C'était beaucoup de la documentation... des références, en fait, pour des cours aux études supérieures. Donc, moi, un peu naïvement, puis comme je venais de finir mon doctorat, je prenais des bouts à gauche, à droite, puis j'essayais de faire un cours un peu qui se tienne, évidemment, mais qui était accessible au niveau du bac, mais il y avait des choses que je réalisais pas. Dans le sens que, au niveau de la notation, des modèles mathématiques, il y avait d'une section à l'autre, c'était pas du tout cohérent. Puis ça m'a pris quand même peut-être une itération ou deux avant de me rendre compte que ça pouvait être très confus pour les étudiants, les étudiantes là, qui suivaient ce cours-là. Puis que moi, je réalisais pas ça parce que moi, bon, je changeais de contexte, je changeais de modélisation, ça me posait pas de problème, mais... au niveau des étudiants, ça posait des problèmes. Là.
Fait qu'il y a vraiment, dans le fond, cette notion-là de plus on avance, peut-être plus on se rend compte qu'on a devant nous vraiment des néophytes, des gens qui connaissent moins le domaine.
Oui, qui sont pas au même niveau du tout.
Tout
là.
À fait. Donc, encore plus important de bien séparer les morceaux puis de les amener dans le bon ordre pour qu'ils les assimilent l'un après l'autre.
Oui, c'est ça qu'il y a un suivi à travers les sections puis qu'on peut pas plugger des morceaux comme ça de casse-tête complètement disjoint. Là.
Bien sûr.
Ça marche pas. Alors que... je pense que dans les cours plus avancés, ça pose pas de problème. Là,
certainement
de
plus facile.
Oui, oui, tout à fait.
OK, j'entends donc plus d'expérience, plus de cohérence.
Oui.
Quand même un élément, je pense, c'est important d'aborder. femme et professeur d'informatique, c'est encore rare quand même. Il y en a davantage qu'il y en a déjà eu, mais vous n'êtes pas nombreuses. Qu'est-ce qui vous a attiré à ce domaine-là?
Quand j'ai commencé, moi, ma formation, c'était moins problématique le fait d'être une femme en sciences, pas en sciences, mais en informatique. On était quand même, on n'était pas majoritaire, on s'entend, là, mais au programme en informatique, on était certainement un gros, on était plus que 10% de filles.
Okay.
Puis en informatique de gestion, qui était vraiment peut-être le deux tiers de la promotion, c'était certainement 50 % des étudiants qui étaient des femmes, là. Fait que il y avait moins cette problématique-là. Puis moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a attirée? En fait, j'ai fait un autre programme universitaire avant. J'ai fait actuariat à l'Université Laval. Puis le seul aspect que j'aimais vraiment, il y avait l'aspect mathématique que j'appréciais beaucoup. Puis l'autre affaire, c'était les travaux informatiques qu'on avait à faire, là, les cours en informatique. Puis tu sais, je me tannais pas là, de résoudre des problèmes de nature algorithmique surtout. Là. Donc, ouais, ça, j'aimais beaucoup ça.
Puis vous dites, dans le temps, c'était pas un problème. Est-ce que maintenant, il y a moins de filles? C'est ce que j'entends?
Ça a diminué. Okay. Ça a diminué beaucoup, là, okay. À tel point que... En informatique pure, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là. Il y en a peut-être deux ou trois qui rentrent. Puis ça, s'ils complètent le programme, on se considère chanceux. Mmh.
Puis est-ce que, d'après vous, il y aurait des façons d'attirer davantage de filles en informatique? Puis ben, qu'est-ce que ça changerait?
Oui, en fait, ce qui est intéressant d'avoir des femmes dans toutes sortes de domaines déjà, puis en particulier en informatique, c'est la façon de voir les choses, essentiellement, qui est différente. C'est comme dans n'importe quel domaine où traditionnellement masculin, c'est des femmes qui viennent ou, je sais pas, moi, ça peut être des personnes de minorité visible ou whatever. Là. Mais... Oui, c'est vraiment important parce qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont pas abordées quand il n'y a pas de femmes qui sont impliquées. Là. Je pense juste des problématiques d'intelligence artificielle où il y a bien des facteurs qui n'ont pas été pris en compte dans le développement des algorithmes ou en fait le montage des bases de données qui servent à entraîner ces algorithmes-là. Là,
dans ce qui amène à perpétuer des stéréotypes, ouais, ou de la discrimination.
Oui, 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 tout à fait.
Je sais qu'un exemple qui était donné, c'est que quand une intelligence artificielle cherche un astronaute, par exemple, dans des images, elle cherche systématiquement un homme à cause des algorithmes qui ont été conçus par des gars. Oui,
puis il y a aussi une question, je pense, de problématique aborder c'est quoi les... Pas tant au niveau des solutions apportées, mais à quel type de problème on va s'intéresser, ça va peut-être être un peu différent. Puis... bon.
Justement au texte que vous signez dans le numéro du Perspective SSF de décembre 2021. Vous évoquez que depuis plusieurs années, évidemment, vous êtes témoin d'évolution des cohortes d'étudiants qui arrivent en informatique chez vous. Puis là, peu à peu, vous vous apercevez de deux lacunes que vous observez. J'aimerais ça que vous nous rappeliez ces lacunes-là, puis vous nous expliquiez en quoi est-ce que c'est problématique pour des futurs informaticiens, informaticiens.
Mmh. Bien, en fait, moi, les deux plus grosse lacune là, que j'ai constatée, en fait, les lacunes qui augmentent, en fait, ça se trouve à être la compréhension de textes un peu plus longs, puis peut-être la débrouillardise aussi. Donc, en fait, la compréhension de textes, souvent, on va le constater dans les... en fait, par les questions que les étudiants vont poser quand ils sont à réaliser des solutions pour des devoirs, par exemple, des devoirs un peu plus longs.
Lorsqu'il y a un problème qui est défini, une mise en situation.
Exactement,
là.
Qui n'est pas nécessairement donné dans des termes exactement les mêmes que donné en classe, parce que ce n'est pas des petits exercices de pratique, c'est vraiment là, des... on veut les mettre dans une situation où ils ont une analyse de problème à faire pour éventuellement trouver une solution, développer une solution. Puis l'information est là, c'est juste que on dirait qu'ils ont des fois c'est difficile de décoder c'est quoi qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas pertinent, qu'est-ce qui devrait être considéré, c'est quoi qui est un indice peut-être.
Une masse d'informations, ils ont plus de difficultés à trouver l'information pertinente.
Puis des fois ça va se refléter aussi dans la manière dont ils vont écrire des travaux, peut-être. Okay. Je ne sais pas, au niveau de la documentation qu'on va leur faire produire pour accompagner leur programme, exactement. Leur programme informatique, où ça va être au niveau de, justement, des fois, des rapports à savoir un petit peu plus scientifiques, là. Tu sais, juste... Comment un texte s'est bâti, là? C'est quoi qui est pertinent de mettre dans une introduction? C'est quoi qu'on devrait mettre dans un corps de texte? Tu sais, pourquoi mettre des figures? Puis, toutes sortes d'aspects comme ça. Puis, c'est ça. Dans les examens aussi, là, c'est difficile de poser des questions à développement avec un contexte parce que ça leur demande beaucoup de jus, on dirait, juste pour essayer de comprendre la question. Puis après ça, il leur reste plus de temps pour répondre comme tel.
Puis ce que vous appelez la débrouillardise, à quoi vous faites référence?
Bien, la débrouillardise, en fait, c'est justement d'être capable de faire un peu les liens, de pas se faire donner toutes les instructions au fur et à mesure. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrives à figurer comment résoudre ton problème, parce que dans la vraie vie, tu n'auras pas ces instructions précises-là. Là, la méthode, elle n'existe peut-être pas. Là, c'est particulièrement vrai en informatique parce que t'es en constante évolution, puis il n'y a rien qui est figé dans le temps. Là. Les méthodologies, ça n'arrête pas de changer. Donc, il y a tous ces aspects-là. Comme je mentionnais dans mon texte, faut que je leur donne des étapes au début, puis essayer de les affranchir, d'être obligé de leur donner ces instructions-là très, très détaillées. Oui, c'est bon jusqu'à une certaine mesure, mais à un moment donné, il faut que tu te détaches un peu de ça.
Qui ont besoin de plus d'accompagnement,
peut-être. Oui, je pense que oui, ça se...
Est-ce que, d'après vous, il peut y avoir une notion d'anxiété derrière ça?
Potentiellement, ça se pourrait. Là, c'est sûr que moi, je ne suis pas nécessairement...
Non, je comprends. Mais je me pose la question parce que moi-même, comme chargé de cours, je l'observe des fois... Ouais. La crainte de ne pas donner la bonne réponse ou de ne pas répondre de la manière dont le prof espère.
De se tromper, là, exactement. Puis, ça se pourrait très bien que ça soit là. Je ne sais pas si plus présent ou non. Ça se pourrait très bien que ça soit plus, là.
Puis, évidemment, confrontés à ça, nous, on veut les amener au diplôme. On veut qu'ils évoluent le plus possible, nos étudiants, nos étudiantes. Mm-hmm. Vous avez offert quoi comme accompagnement pour essayer de les aider là-dedans, dans ces deux difficultés-là?
Moi, j'essaie, en fait, d'être le plus possible là pour eux et elles quand ils ont besoin de moi. J'essaie d'installer un espèce de climat aussi qui peut être de confiance en classe. Donc ça peut aider. C'est sûr que, j'ai un privilège que souvent les cours que j'enseigne, il n'y a pas beaucoup d'étudiants non plus. Donc,
les plus petits groupes.
Oui, c'est ça. Ça aide beaucoup. Bien sûr, là, bien sûr. Fait que je pense que à ce niveau-là... Mais il faut aller les solliciter, faut avoir une espèce de climat d'interaction, leur poser des questions, puis voir comment ils peuvent répondre, puis essayer de les rassurer quand ils n'ont pas la bonne réponse, là. Fait que,
ça. Climat de confiance, c'est certain. Ouais. votre texte s'appelle « Le bras dans le tordeur pédagogique ». J'aimerais ça que vous nous racontiez un peu comment vous avez mis le bras dans ce fameux tordeur-là. Puis qu'est-ce que ça a changé à votre vision de l'enseignement? Vous en avez parlé un peu tantôt. Mm-hmm. Hein?
Bien, en fait, ça... Bon, premièrement, ça date peut-être de... 3-4 ans, je ne me rappelle plus exactement en quelle année. Là. Mais il y a eu un cours qui s'est offert là, pour la première fois sur l'enseignement inclusif. Et puis, bon, c'était assorti d'une petite subvention pour développer du matériel, justement, dans ce cadre-là. Puis il y avait toute une... des séances de travail en co-développement. Puis, bon, fait que j'ai un peu embarqué dans cette première cohorte-là avec un objectif assez précis parce que j'avais des problématiques, en fait, dans un cours en particulier qui s'adressait à toutes sortes de clientèles. Puis, il y avait, dépendamment de la clientèle, donc... Entre autres, les personnes qui étudiaient en mathématiques, qui suivaient ce cours-là, ils n'étaient vraiment pas dans le même esprit que les étudiants qui commencent en informatique, par exemple. Donc, ça posait des gros problèmes.
Il y avait une bonne diversité d'étudiants.
Oui, tout à fait. Donc, en plus des étudiants à l'international qui ont une autre. Toute autre formation. Donc, c'est ça, je voulais explorer un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis là, ben voilà, avec les développements, les tables de co-développement qu'on a faites, c'était vraiment intéressant parce que là, il y avait vraiment beaucoup... Il y avait des personnes qui provenaient de différentes facultés, puis les discussions menaient à des... En fait, des solutions que nous, on n'a pas nécessairement... on pense pas à ce type d'enseignement-là, je pense, en sciences puis en informatique en général. Donc, c'était vraiment intéressant. Là.
Eh bien, peux-vous donner un exemple, pas plein, mais d'une chose que vous avez choisi de modifier dans votre façon d'enseigner suite à cette séance de co-développement?
Et en fait, c'est assez drôle parce que Maryse Beaulieu, qui était la formatrice... Elle dit, elle avait l'air à dire que j'étais vraiment la personne qui avait comme viré de bout en bout toute son approche pédagogique pour le cours. Là. Fait que je suis sortie de là, moi, en ayant en tête de vraiment tout restructurer le cours, la manière dont il était donné. Donc, essayer de séparer des choses qui étaient très mélangées, peut-être, puis de remélanger des affaires qui étaient pas mélangé avant. Puis donc, c'était vraiment... En fait, j'ai, sans le savoir, encore une fois, parce que j'avais pas tant vu la formation à ce sujet-là, mais tu sais, je suis encore allée dans la cohérence. Là. Peut-être expliciter un peu plus aussi les différentes étapes de développement à chaque chapitre, en fait, puis introduire les notions un petit peu plus, de façon peut-être plus organisée. Donc, en tout cas, bref.
Eh bien, non, je comprends le bras dans le tordeur, maintenant. Puis, d'après vous, après une prise de conscience comme celle-là, vous dites, on se pose des questions sur tout. Pourquoi vous dites que c'est un travail d'amélioration constant? Ce que je comprends, c'est que c'est pas un changement une fois, puis c'est fini.
Ah, bien, c'est parce que c'est presque impossible là, de tout faire ce qu'on a envie de faire d'une seule fois, parce qu'on n'a pas le temps, là, genre, fait qu'on améliore une petite affaire, puis une autre petite affaire, puis... fait que c'est ça, tu sais, je suis pas rendue au niveau de mes ambitions, déjà, là, juste pour ce cours-là, fait que... voilà.
Si on, si on ajoute les autres cours.
Oui, c'est exactement ça.
OK, je comprends.
Exactement, puis après ça, ben peut-être que c'est de voir les programmes de façon différente aussi, là, on tombe dans un autre niveau de
pour qu'il y ait éventuellement une cohérence aussi dans l'ordre des activités pédagogiques.
Ben oui, entre autres, là, puis la manière dont les cours sont décrits, puis comment, en tout cas, bref.
Oui, je vois. Je vois comment ça peut devenir ambitieux.
Oui, tout à fait.
On arrive déjà à la conclusion de notre entretien. Merci beaucoup pour votre temps. Mais j'aime terminer en posant la question suivante. On a tous des passages à vide à un moment donné, comme enseignant, comme professeur. Il y a un moment où, pour X raisons, on est plus fatigué, ça va moins bien peut-être dans d'autres aspects de notre vie, etc. Mais dans une carrière consacrée à la formation, comment on retombe en amour avec l'enseignement? Marie Flavie ou Claire Fortier, comment on retombe en amour? Qu'est-ce qui fait que une espèce de « Ah, c'est pour ça que j'enseigne ».
Ah, oh, mon Dieu, mais je pense que déjà, j'ai jamais pas été en amour avec l'enseignement. Là. C'est sûr qu'il y a eu des sessions un peu plus plates que d'autres. Bon, en tout cas, moins enthousiasmante. Mais moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est le contact avec les étudiants. Là. On dira ce qu'on voudra. C'est quand j'ai un cours, puis je pense que ça doit être comme ça pour la plupart des enseignants. Là. Donc, quand j'ai un cours avec une interaction, puis je sens que les étudiants sont là, puis qu'ils me posent des questions, puis moi, je pose des questions, puis qu'ils répondent à côté ou pas à côté, peu importe. C'est là que c'est plaisant. Là. Quand je sens qu'ils ont envie là, de savoir plus.
C'est ça. C'est quoi qui est le plus satisfaisant dans ça, dans ce désir qu'ils ont de savoir, puis votre rôle là-dedans?
Bien, quand je suis capable de leur quand je vois la petite lumière s'allumer, c'est ça qui est plaisant. Donc, tu sais, puis moi, je l'ai vécu comme étudiante, là. Une notion qu'il n'y a pas moyen, c'est compliqué, puis là, à un moment donné, t'allumes, là, c'est... Puis là, d'être la personne qui te fait allumer, tu sais, que tu donnes le bon mot-clé ou la bonne explication, la bonne phrase pour cette personne-là à ce moment-là, puis là, whoop, elle vient d'allumer, puis c'est fini, là, elle n'aura plus de problème avec ça jusqu'à la fin de ses jours, c'est... Ça arrive pas souvent, mais c'est ça qui est de la drogue.
Ah oui. Mais merci beaucoup de votre temps et de votre générosité.
Merci.
Merci. Bonne fin de journée.
Merci.
C'était Prof de cours balado, une production du service de soutien à la formation.